Il s'avéra qu'il n'avait conclu ce rendez-vous que pour en débuter un autre. Un homme inconnu de Chalanne était assis près de lui, avec une coupe d'eau fraîche dans une main. Grand, svelte, les yeux bleus. Il avait des cheveux d'un noir profond, sans la moindre trace d'impureté, et portait des vêtements de la même teinte. Il lui lança un coup d'œil lorsqu'elle entra dans la loge. L'homme sursauta et laissa tomber sa coupe sur la table. Il la rattrapa d'un geste rapide pour l'empêcher de basculer, puis se retourna pour fixer Chalanne avec la mâchoire pendante. Son expression disparut la seconde d'après, remplacée par une indifférence calculée.
« Crétin maladroit !»
s'exclama papa. Le nouveau venu se détourna pour parler tout bas à son père. La belle-mère de Chalanne se tenait sur le côté, avec les cuisiniers. Chalanne se glissa auprès d'elle.
« Qui est-ce ?»«
Personne d'important, » répondit Malise. « Il affirme apporter un message de ton frère, mais il est d'un dan tellement bas qu'il ne peut même pas nous présenter un décret d'ascendance. »«
Mon frère ? Et la rane ?»
Malise hocha la tête. Chalanne se retourna vers le nouveau venu. Elle le surprit à tirer quelque chose de la poche de son manteau, d'un geste discret, pour le tendre vers les boissons. Une onde de choc la traversa. Elle leva la main. Du poison. Le nouveau venu versa furtivement le contenu de la bourse dans sa propre coupe, puis la porta à ses lèvres et avala la poudre. De quoi s'était-il agi?
Chalanne baissa la main. Le nouveau venu se leva l'instant d'après. Il ne s'inclina pas devant papa en parlant, mais adressa un sourire à Chalanne, descendit les marches et quitta la loge.
Un message d'Elaran. Qu'était-il donc? Chalanne s'approcha timidement de la table.
Papa?
Il gardait le regard braqué sur le duel au centre de l'arène. Deux hommes armés d'épées, sans boucliers. En hommage aux idéaux classiques. Leur méthode de combat à grands coups d'épée ample était censée imiter le combat avec une lame d'éclat.
Des nouvelles de Nan et Laran?
Tenta Chalanne.
Je t'interdis de prononcer son nom, répliqua son père.
Je
t'interdis de parler de celui-là,
lui lança-t-il en la toisant, l'expression orageuse.
Aujourd'hui, je le déclare déshérité. Tête Balat est désormais officiellement Nan Balat. Oui Kim devient tête, Jouchou devient un chat. Je n'ai que trois fils.
Elle savait qu'il valait mieux éviter de le bousculer lorsqu'il était dans cet état. Mais comment allait-elle découvrir ce qu'avait dit le messager? Elle s'enfonça dans son siège, de nouveau secouée.
Tes frères m'évitent, poursuivit papa en regardant le duel. Aucun d'entre eux ne choisit de dîner avec son père comme le voudrait la bienséance.
Chalanne joignit les mains sur son giron.
Jouchou doit être en train de s'enivrer quelque part, continua papa. Le père des tempêtes sait où Balat a disparu. Et Wikim refuse de quitter la voiture.
Il vida d'un trait sa coupe de vin.
Veux-tu bien lui parler? La journée n'a pas été bonne. Si j'allais le trouver, je crains ce que je pourrais lui faire.
Chalanne se leva, puis posa la main sur l'épaule de son père. Il s'affala, penché vers l'avant, une main autour de la cruche de vin vide. Il leva l'autre main pour tapoter celle de Chalanne sur son épaule, le regard lointain. Il faisait des efforts. Ils en faisaient tous. Chalanne se dirigea vers leur voiture, qui se trouvait garée avec un grand nombre d'autres véhicules près de la pente ouest du champ de foire. Ici, les gélissiers étaient très hauts, et leurs troncs durcis possédaient la couleur brun clair du crémon. Leurs aiguilles poussaient sur chaque branche, comme un millier de langues de feu. Même si les plus proches se rétractaient à son approche, elle s'étonna de voir un vison se faufiler parmi les ombres. Elle croyait qu'on avait déjà capturé tous ceux de cette zone. Les cochers assis en cercle jouaient aux cartes près de là. Certains avaient dû rester surveiller les voitures, bien que Chalanne ait entendu Rennes parler d'une sorte de roulement afin qu'ils puissent tous se rendre à la foire. En réalité, Rennes n'était pas présent pour le moment, mais les autres cochers s'inclinèrent sur son passage. Wikim était assis dans leur voiture. Le jeune homme pâle et mince n'était l'aîné de Chalanne que de 15 mois. Il possédait une certaine ressemblance avec son jumeau. Mais peu de gens les confondaient. Jouchou paraissait plus âgé, et Wikim était si maigre qu'il semblait malade. Chalanne monta dans la voiture pour s'asseoir en face de Wikim et posa sa sacoche sur son siège à côté d'elle.
« C'est papa qui t'envoie ?» demanda Wikim. « Ou tu viens me voir dans le cadre d'une de tes nouvelles petites missions de charité ?»«
Les deux ?»
Wee Kim se détourna d'elle pour regarder par la vitre en direction des arbres, à l'opposé de la foire.
Tu ne peux pas nous réparer, Shalan.
Jushu va se détruire lui-même. Ce n'est qu'une question de temps. Balat est en train de devenir papa, petit à petit. Malise passe une nuit sur deux à pleurer. Papa va la tuer un de ces jours, comme il a tué maman.
Et toi ?
L'interrogea Shalan. Ce n'était pas la chose à dire, comme elle le comprit dès l'instant où ses mots franchirent ses lèvres.
Moi ? Je ne serai plus là pour le voir. Je serai mort d'ici là.
Shalan s'entoura de ses deux bras et ramena ses jambes en dessous d'elle sur le siège. La clarissime Achel aurait grondé pour cette posture si peu féminine.
Que pouvait-elle faire ? Ou dire ?
Il a raison, songea-t-elle. Je ne peux pas réparer ça. Et Laran aurait pu, mais pas moi. Ils étaient tous en train de sombrer petit à petit.
Alors, qu'est-ce que c'était ?
Demanda Wee Kim.
Par curiosité, qu'as-tu inventé pour me sauver ?
J'imagine que tu as utilisé cette fille pour Balat. Elle hocha la tête.
Tu t'es montrée tellement transparente là-dessus,
ajouta Wee Kim,
avec les lettres que tu lui as envoyées.
Et Jushu, qu'est-ce que c'était pour lui ?
J'ai la liste des duels du jour,
murmura Shalan.
Il aimerait tellement se battre en duel. Si je lui montre les combats, peut-être qu'il voudra venir les regarder.
Il faudra d'abord que tu le trouves,
ricana Wee Kim.
Et moi ? Tu dois bien savoir que ni les épées ni les jolies figures ne marcheront sur moi.
Shalan se sentit très bête lorsqu'elle fouilla dans sa sacoche pour en tirer plusieurs feuilles de papier.
Des dessins ?
Des problèmes de maths.
Wee Kim s'en empara en fronçant les sourcils, puis les étudia en se grattant distraitement le côté du visage.
Je ne suis pas un ardent. Pas question que je me retrouve enfermé, forcé à passer mes journées à convaincre les gens d'écouter le Tout-Puissant, qui, étrangement, ne sait pas s'exprimer tout seul.
Ça ne t'empêche pas d'étudier, répondit Shalan. J'ai trouvé ces problèmes dans les livres de papa, des équations pour déterminer l'arrivée des tempêtes majeures. J'ai traduit et simplifié l'écriture en glyphes pour que tu puisses les lire. Je me suis dit que tu pourrais essayer quand les prochaines viendront.
Il passa les pages en revue.
Tu as tout recopié et traduit, même les dessins.
Nom des foudres, Shalan, ça t'a pris combien de temps ?
Elle haussa les épaules. Il lui avait fallu des semaines, mais elle n'avait que du temps libre. Des journées assises dans les jardins, des soirées assises dans sa chambre, avec parfois une visite aux ardents pour des leçons tranquilles sur le Tout-Puissant. C'était bien d'avoir des choses à faire.
« C'est stupide !» déclara Wee Kim en reposant les papiers. « Que crois-tu accomplir comme ça ? Je n'arrive pas à croire que tu aies gaspillé tellement de temps pour faire ça. »
Shalan baissa la tête, puis, retenant ses larmes, sortit précipitamment de la voiture. C'était affreux. Pas simplement les paroles de Wee Kim, mais la façon dont ses émotions la trahissaient. Elle ne réussissait pas à les contenir. Elle s'éloigna rapidement des voitures, espérant que les cochers ne la verraient pas essuyer ses larmes avec sa sage main. Elle s'assit sur une pierre et tenta de retrouver son calme, mais n'y parvint pas, et ses larmes coulèrent librement. Elle tourna la tête sur le côté, tandis que quelques parches passaient tout près pour faire courir les hashdogs de leur maître. Il y aurait plusieurs chasses dans le cadre des festivités.
« Hashdog !» dit une voix derrière elle.
Shalan sursauta, sage main sur la poitrine, et se retourna. Il se reposait sur une branche d'arbre, vêtue de noir. Il remua lorsqu'elle le vit. Et les feuilles pointues se retirèrent autour de lui, selon une vague de rouge et d'orange en train de disparaître. C'était le messager qui avait parlé à son père un peu plus tôt.
« Je me demandais, » reprit-il, « si quiconque parmi vous trouvait ce terme curieux. Vous savez ce qu'est une hache ? Mais qu'est-ce que c'est qu'un dog ?
Pourquoi ce sera important ? »
demanda Shalan.
« Parce que c'est un mot, » répliqua le messager. « Un simple mot qui renferme tout un monde, comme un bourgeon qui attend de s'ouvrir. »
Il étudia Shalan.
« Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. »
Je... »
Ses réflexes lui dictaient de s'écarter de cet homme étrange. Et cependant, il avait des nouvelles d'Elaran, des nouvelles que son père ne partagerait jamais.
« Où pensiez-vous me trouver ? Sur le terrain de duel ?»
L'homme se laissa passer par-dessus la branche et se laissa tomber à terre. Shalan recula.
« Pas la peine, » lui dit-il en s'asseyant sur un rocher. « Vous n'avez rien à craindre de moi.
Je suis affreusement inefficace pour ce qui est de blesser les gens. La faute à mon éducation.
Vous avez des nouvelles de mon frère Ilaran ?
Le messager hocha la tête. C'est un jeune homme très déterminé.
Où est-il ?
En train de faire des choses qu'il estime très importantes. J'aimerais pouvoir le lui reprocher, car je ne trouve rien plus effrayant qu'un homme qui cherche à faire ce qu'il a décidé de trouver important. Très peu de choses dans ce monde sont allées de travers. Du moins, à grande échelle. Parce que quelqu'un a décidé d'être frivole.
Mais il va bien,
insista-t-elle. Plutôt. Le message destiné à votre père disait qu'il avait des yeux dans les parages et qu'il surveillait. Pas étonnant qu'il ait mis papa de si mauvaise humeur.
Où est-il ?
Demanda Shallan en s'avançant timidement.
Est-ce qu'il vous a dit de me parler ?
Je suis désolée, jeune fille, répondit l'homme dont l'expression s'adoucit. Il ne m'a confié que ce bref message pour votre père. Et seulement parce que j'ai mentionné que je voyagerais dans la région.
Ah, j'avais supposé qu'il vous avait envoyé ici. Enfin, que venir nous voir était votre objectif principal.
Il s'est trouvé que oui. Dites-moi, jeune fille, est-ce que l'esprène vous parle ?
Les lumières qui s'éteignaient, toute vie aspirée. Des symboles tordus que les yeux n'auraient pas dû voir.
L'âme de sa mère dans une boîte.
Je...
hésita-t-elle.
Non. Pourquoi un spren me parlerait-il ?
Pas de voix, insista l'homme en se penchant vers elle. Les sprens s'éteignent-elles quand vous êtes dans les parages ?
Je suis désolée, dit Shallan. Mais je dois retourner voir mon père. Il va se demander où j'ai disparu.
Votre père est en train de détruire lentement votre famille, poursuivit le messager. Votre frère avait raison sur ce point. Il se trompait sur tout le reste.
Par exemple ?
Regardez.
L'homme désigna les voitures. Elle se trouvait à l'angle adéquat pour voir à l'intérieur de la vitre de celle de son père. Elle plissa les yeux. À l'intérieur, Wikim se penchait vers l'avant et se servait d'un crayon trouvé dans la sacoche de Shallan qu'elle y avait oublié. Il était en train de résoudre les problèmes mathématiques qu'elle avait laissés. Et il souriait.
La chaleur qu'elle éprouvait, un éclat profond, ressemblait à la joie qu'elle avait connue auparavant.
Longtemps auparavant, avant que tout ne tourne de travers, avant maman.
Le messager chuchota.
Deux aveugles attendaient à la fin d'une époque, contemplant la beauté. Ils étaient assis au sommet de la plus haute falaise du monde, qui surplombait les terres, et ils ne voyaient rien.
Hein ?
Elle se tourna vers lui.
Peut-on priver un homme de beauté ?
Demanda le premier au second.
« On m'en a privé, » affirma le second, « car je ne peux m'en souvenir. Cet homme avait perdu la vue lors d'un accident survenu dans son enfance. Je prie chaque soir le Dieu, au-delà, qu'il me rende la vue, afin que je puisse retrouver la beauté. Dans ce cas, la beauté est-elle quelque chose qu'il faut voir ?»
le questionna le premier.
« Évidemment, c'est sa nature. Comment peut-on apprécier une œuvre d'art sans la voir ?»«
Je peux entendre une œuvre d'art, » objecta le premier.
Très bien, on peut entendre certains types de beauté, mais on ne peut connaître la beauté pleine et entière sans la vue. On ne peut en connaître qu'une petite portion.
Une sculpture, dit le premier.
Ne puis-je sentir ses courbes et ses pentes, le doigté du burin qui a transformé la pierre ordinaire en merveille sans égale ?
Sans doute, admit le second, que tu peux connaître la beauté d'une sculpture.
Et que dire de la beauté de la nourriture ? N'est-ce pas une œuvre d'art lorsqu'un cuisinier conçoit un chef-d'œuvre à même d'enchanter le palais ?
Sans doute, reconnut le second,
que tu peux connaître la beauté de l'art d'un chef.
Et que dire de la beauté d'une femme ? Demanda le premier. Ne puis-je connaître sa beauté dans la douceur d'une caresse, la gentillesse de sa voix, la vivacité de son esprit lorsqu'elle me lit de la philosophie ? Ne puis-je connaître cette beauté-là ? Ne puis-je connaître la plupart des types de beauté, même sans mes yeux ?
Très bien, concéda le second. Mais si l'on retirait tes oreilles et que l'on te privait d'ouïe, si l'on retirait ta langue, qu'on fermait ta bouche de force, qu'on détruisait ton sens de l'odorat, si ta peau était brûlée de telle sorte que tu ne puisses plus rien ressentir, s'il ne te restait que la douleur, alors tu ne pourrais connaître la beauté. On peut en priver un homme.
Le messager s'interrompit et regarda Shallan en inclinant la tête.
Qu'y a-t-il ?
Demanda-t-elle. Qu'en pensez-vous ? Peut-on priver un homme de beauté ? S'il ne peut plus toucher, goûter, sentir, entendre ni voir. Et s'il ne connaît plus que la douleur, a-t-on privé cet homme de beauté?
Je...
Quel rapport avec quoi que ce soit?
La douleur change-t-elle d'un jour sur l'autre?
Mettons que oui, répondit le messager.
Dans ce cas, la beauté, pour cette personne, résiderait dans les moments où la douleur s'amoindrit.
Pourquoi me racontez-vous cette histoire?
Le messager sourit. Être humain, Shalan, c'est chercher la beauté. Ne perdez pas espoir. Ne renoncez pas à la chasse parce que des ronces vous barrent le chemin. Dites-moi, quelle est la plus belle chose que vous puissiez imaginer?
Papa doit se demander où je suis.
Accordez-moi un moment, intervint le messager. Je vous dirai où se trouve votre frère.
Dans ce cas, un merveilleux tableau. C'est la chose la plus belle qui soit.
Mensonge, rétorqua le messager. Dites-moi la vérité. Que représente-t-elle pour vous, mon enfant, la beauté à vos yeux? De quoi s'agissait-il?
Maman est toujours vivante,
s'entendit-elle murmurer en le regardant droit dans les yeux. Et?
Et nous sommes dans les jardins,
poursuivit-elle.
Elle parle avec mon père, et il rit. Il rit, et il la serre contre lui. Nous sommes tous là, y compris Elaran. Il n'est jamais parti. Les gens que connaissait ma mère, Dreder, ne sont jamais venus chez nous. Maman m'aime. Elle m'enseigne la philosophie, et elle me montre comment dessiner.
Très bien, répondit le messager. Mais pouvez-vous faire mieux que ça? Quel est cet endroit? Quelle sensation y associez-vous?
C'est le printemps,
lança Shalan, maintenant agacée.
Et les mousselianes en fleurs sont d'un rouge flamboyant. Leur odeur est douce et l'air encore humide de la tempête majeure du matin. Maman murmure, mais son intonation est musicale et le rire de papa n'est pas sonore. Il s'élève haut dans les airs et nous baigne tous. Et Laran apprend à Jouchou comment se battre à l'épée et ils s'entraînent tous près de nous. Wiki m'éclate de rire quand Elaran se fait toucher sur le côté de la jambe. Il étudie pour devenir ardent, comme le voulait maman. Je suis en train de les dessiner tous, à traits de charbon sur le papier. J'ai chaud malgré la légère froideur de l'air. J'ai une coupe de cidre fumant près de moi, et je goûte la douceur de la gorgée que je viens de boire. C'est beau, parce que ça aurait pu se produire. Ça aurait dû.
Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. Père des tempêtes. Avec quelle netteté elle les voyait. Elle entendait la voix de sa mère, voyait Jouchou donner des sphères à Balat parce qu'il venait de perdre le duel, mais en riant, sans se soucier d'avoir perdu. Elle sentait la douceur de l'air, les parfums, entendait le bruit des cantillons dans les buissons. Tout ça semblait presque réel. Des volutes de flammes s'élevaient devant elle. Le messager avait sorti une poignée de sphères qu'il tendait vers elle tout en la fixant droit dans les yeux. La fulgiflamme vaporeuse s'élevait entre eux. Shalan leva les doigts tandis que cette image de sa vie idéale l'enveloppait comme un édredon. Non. Elle recula. La lueur brumeuse se dissipa. Je vois, déclara tout bas le messager. Vous ne comprenez pas encore la nature des mensonges. J'avais moi-même ce problème longtemps auparavant. Les éclats ici sont très stricts. Il vous faudra voir la vérité, mon enfant, avant de pouvoir l'exploiter. De la même manière qu'un homme doit connaître la loi, avant de l'enfreindre. Les ombres du passé de Shalan s'agitèrent dans les profondeurs et remontèrent très brièvement vers la lumière.
Est-ce que vous pourriez m'aider?
Non, pas pour l'instant. Vous n'êtes pas prête pour commencer. Et j'ai du travail. Un autre jour. Continuez à tailler ces ronces, l'inflexible. Effrayez-vous un chemin vers la lumière. Les choses que vous combattez ne sont pas entièrement naturelles. Il se leva, puis lui adressa une révérence.
« Mon frère, » dit-elle.
« Il se trouve en Aletkar. »«
Aletkar ? Pourquoi donc ?»«
Parce que c'est là qu'il a le sentiment de pouvoir se rendre utile, bien sûr. Si je le revois, je lui donnerai de vos nouvelles. » Le messager s'éloigna d'une démarche légère et souple qui rappelait presque des pas de danse. Shalan le regarda partir, et les choses qui se trouvaient au plus profond d'elle s'apaisèrent à nouveau et regagnèrent les parties oubliées de son esprit. Elle s'aperçut qu'elle n'avait même pas demandé à cet homme quel était son nom.